j'ai commencé à réussir à sortir le blâme de moi à l'extérieur, tu vois, en me disant je suis pas la cause de tout ce qui m'arrive. Ouais. Donc en fait, il y a de l'amour de soi-même qui commence un peu plus à se construire. Mmh. Et en fait, quand tu t'aimes, mmh, et tu commences à quand même te dire je mérite mieux que de vivre dans cette situation difficile.
Bienvenue au podcast Sebeni Ni Tama, une mission inspirante qui explore le parcours de vie, les histoires de femmes leaders, tout en encourageant la connaissance de soi, la réappropriation de nos propres histoires. Il s'agit de conversations intimes et engagées, où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle, entrepreneuriat, littérature, art, culture. Inès Alchir est fondatrice des collectifs féministes et antiracistes Les Foulards Violets et Fête des Vagues. Cet épisode va bien sûr nous parler de son militantisme, également de bien plus encore. Elle va vraiment partager avec nous un bout de son histoire personnelle et familiale, un bout de son cheminement, de ses réflexions, des étapes par lesquelles elle est passée, qui font d'elle aujourd'hui la femme engagée qu'elle est. Alors bonjour Inès, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc tu travailles dans la communication pour une ONG, tu es aussi une activiste qui est très engagée, puisque tu as co-créé deux collectifs, donc le collectif Les Foulards Violets et Fête des Vagues. Et puis en plus, tu es une femme passionnée d'art, plus particulièrement d'écriture. Alors aujourd'hui, on va explorer ton parcours personnel, familial, professionnel, militant. Et on va faire le lien entre les épreuves qu'on peut vivre et ce qu'on fait en fait maintenant. Pour moi, c'est très important de parler de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu vas... Comment ça va là maintenant? Comment ça va en ce moment pour toi?
Bonjour Geneva, je suis super contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Cette question de comment est-ce que je vais, c'est marrant. J'ai passé quand même pas mal de temps ces derniers mois à faire beaucoup de choses d'un point de vue activiste et je me suis souvent retrouvée derrière un micro. Mm-hmm. Et c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on me demande comment je vais. Donc déjà... Déjà, je trouve que ça a son importance et j'ai à la fois un mélange d'excitation là, parce que j'aime bien ce que tu fais et la manière dont tu le fais, et en même temps un peu d'appréhension parce que bien que j'ai l'habitude de prendre la parole, j'ai rarement l'occasion de parler de moi. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pour moi. J'espère que tu vas être indulgente.
T'inquiète pas, tout ira bien. On est dans un espace qui est bienveillant. Moi, j'aime bien commencer en revenant sur l'enfance et l'adolescence. En général, les enfants, ils ont toujours plein de rêves, ils ont toujours plein d'idées et tout. Ils ont quelque chose en... C'est comme s'il n'y avait aucune limite, en fait, dans leur manière de voir leur réalité. Est-ce que tu peux me dire un peu quels étaient, toi, tes plus grands rêves et tout?
Alors, il y en avait un sur lequel je faisais une fixation, c'était de devenir astronaute. Mmh. Donc en fait, moi depuis, quand je me rappelle un peu de ce qui me faisait envie quand j'étais petite, c'était cette idée d'évasion. Mmh. Et je me voyais en astronaute ou à la limite faire quelque chose un peu comme, je sais pas, paléontologue ou chimiste ou quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai très vite, jeune, été attirée par les sciences exactes. Mmh. À l'époque, on n'utilisait pas le mot, mais j'étais une geek, quoi.
D'accord.
Et d'aussi loin que je me souvienne, je me plongeais aussi beaucoup dans les livres. Ma mère m'amenait souvent à la bibliothèque. Alors, ma mère qui ne savait même pas lire parce qu'elle n'avait pas eu la chance d'aller à l'école. D'accord. Et pourtant, elle avait décelé en fait en moi ce goût de la lecture. Donc, en fait, c'était très important pour elle. Mm-hmm. De continuer à cultiver ça. Donc, mm-hmm, parfois, elle allait dans des librairies, puis elle demandait au libraire qu'est-ce que je peux amener à ma fille. Mm-hmm. Et elle me ramenait des livres parfois qui étaient bien trop compliqués pour mon âge, mm-hmm, ou bien l'inverse, qui n'étaient pas... forcément qui était plus jeune, mais comme elle savait pas, en fait, elle prenait et puis elle les amenait. Et puis en fait, ce qui était important pour elle, c'est que ça me fasse plaisir. Puis elle voyait que j'avais ce côté un peu timide, introvertie, intello. Mm-hmm. Et voilà, donc elle l'a respecté, elle l'a fait grandir. Quand bien même c'était quelque chose qui lui échappait un peu.
Mmh, c'est excellent, c'est très beau. Aussi, où est-ce que t'as grandi?
Alors,
où est-ce que t'es née?
Alors ça, c'est une histoire intéressante. Il faut savoir que mes parents, mon père est d'origine égyptienne, ma mère est d'origine tunisienne. Chacun, assez jeune, ont migré de leur pays et sont venus ici et se sont rencontrés ici.
Et donc, à Genève
ici à Genève, ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont installés là et que c'est là qu'ils ont fondé leur famille. Donc je suis l'aînée des trois filles qui sont issues de ce couple. Mmh. Et au moment de ma naissance, mon père était gardien de nuit au palais du roi d'Arabie Saoudite.
Waouh.
Donc, et ma mère était aussi domestique dans ce cadre-là. Mmh. Donc en fait, si tu veux, mes parents avaient cette position assez subalterne, tu vois, domestique, gardien, chauffeur, c'était un peu les métiers qu'ils faisaient, mais ils étaient dans ce cadre du palais. Donc moi en fait, ma première demeure c'était la dépendance du palais royal du roi d'Arabie Saoudite en Suisse.
Waouh, donc t'as habité dans un palace à Colonnes-Balerets.
Ouais, ouais, et c'est très étonnant parce que du coup, j'ai des photos de moi quand je suis bébé dans des salons dorés, qui sont en fait en complet clash avec on va dire la position sociale de mes parents et le fait qu'ils étaient domestiques. Mais du coup, ça a aussi cet autre effet, c'est que je suis née donc à Colonges-Bellerive, cette petite ville pleine de villas de familles aisées cossues, tu vois. Enfin, tu vois, quand j'étais à l'école primaire, j'ai tout de suite senti en fait ce décalage entre qui j'étais et qui étaient les autres, quoi.
Intéressant. Et t'es restée là-bas jusqu'à quel âge?
Alors, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Mm-hmm. Parce que ce qui est arrivé, c'est que mon père a perdu son emploi. Mm-hmm. Et en fait, nous avons dû partir en une semaine. Tout simplement parce que, malheureusement, et c'est aussi la réalité en fait de la société classiste dans laquelle on vit, quand tu es dans un environnement en fait qui est aussi marqué par la classe sociale, quand tu es en bas de cette échelle, tu es vu comme quelque chose de disposable dont on peut vite se débarrasser. Et donc en une semaine, mes parents ont perdu leur emploi, au gré en fait de quelqu'un qui ne l'avait pas qui ne l'avait pas à la bonne en fait. Et en une semaine, ils ont dû se retourner. Mais ce que ça voulait dire, c'est qu'ils n'avaient plus de papier, qu'ils n'avaient plus de logement, qu'ils n'avaient plus d'emploi, et qu'ils avaient trois enfants, dont une handicapée. Et on s'est retrouvés en une semaine, parce que bon, ils ont évidemment remué les terres auprès de leurs amis, etc. Ils ont réussi à trouver une sous-location grâce à quelqu'un. Et donc, en quelques jours, je suis passée de vivre dans le palais du roi d'Arabie Saoudite à un studio dans lequel on dormait à 5 dans le même lit.
Le clash, ouais.
Ouais. Et néanmoins, je pense que je ne vais pas dire que je l'ai mal vécu, parce qu'il y avait un côté, quand on était... Tu sais, quand t'es gamin, des fois, tu ne vois pas tous les enjeux par lesquels passent tes parents.
Complètement.
Moi, je ne l'ai pas complètement compris à l'époque, tu vois. Il y avait un côté camp de vacances. On était... Parce que, bon, quand... Tu vois, il y avait ce côté camp de vacances, on était tous dans le même lit, après il fallait changer d'école, etc. Mes parents avaient tout fait pour ne pas nous montrer en fait l'angoisse et la détresse dans laquelle ils étaient à ce moment-là.
C'est ce que j'allais dire justement. En fait, ce genre de situation, lorsqu'on vit ce genre de situation enfant, on ne le ressent pas si et seulement les parents ils laissent les enfants dans leur place d'enfant. À partir d'un moment où un enfant peut jouer... rire, enfin, à un certain confort, mais en fait, ils ne se rendent pas forcément compte du décalage matériel.
Exactement.
Mais en fait, donc toi, tes origines, c'est l'Égypte, la Tunisie. En même temps, tu es née et tu as grandi en Suisse. Et c'est intéressant parce que je voulais parler de comment toi, tu te définis d'un point de vue identitaire. Parce que là, on a parlé un peu de la classe, mais au-delà de la classe, comment est-ce que tu te définis de manière générale?
Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Nous, en tant que personnes, on va dire égyptiennes, tunisiennes, ou bien celles qui vont venir du Maroc, de l'Algérie, etc., on va souvent nous définir comme étant arabes. Pendant longtemps, en fait, c'est une étiquette en fait que j'ai portée sans trop me poser de questions. Mais ensuite, j'ai quand même déconstruit ce que ça voulait dire être arabe. Et en fait, l'arabité, c'est aussi en fait une idéologie identitaire qui tend à faire de toutes les personnes qui utilisent de manière courante la langue arabe comme étant des personnes arabes. Or, d'un point de vue entre guillemets ethnique, même si j'aime pas trop en fait lier l'aspect ethnique à l'aspect identitaire, sont arabes normalement ceux qui viennent de péninsule arabique.
Oui.
La Tunisie, c'est déjà en fait par exemple quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que nous, la langue arabe que l'on parle en Tunisie, si je vais en Arabie Saoudite et que je la parle, on ne me comprend pas forcément. Si je vais au Maroc, je vois que j'ai des similarités, je vois qu'on se comprend, et pourtant les Marocains, bah, ils se définissent pas forcément comme arabes, puisqu'il y a beaucoup de personnes berbères, etc. Et en fait, la Tunisie, c'est un peu c'est un peu cette terre, on va dire, berbère, qui a été acculturée à la culture arabe, en fait. L'Égypte, c'est encore tout un autre truc. C'est que l'Égypte, elle a un peu, bah déjà, si à partir quand j'ai grandi, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire africaine, l'histoire de l'Égypte, elle occupe une place centrale dans l'imaginaire africain de manière générale, et on ne peut pas juste dire qu'elle est arabe. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, complètement.
Elle préexistait avant que l'on parle arabe, et donc en fait, le mot arabe, il était un peu limitant. Mais d'un autre côté, par exemple, maghrébin, maghrébine, ça ne me convenait pas non plus parce que déjà, le mot maghreb, c'est une construction coloniale. Bah, les Français ont décidé à quoi correspondait le maghreb. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je préfère dire que je suis nord-africaine, d'origine nord-africaine. Parce que simplement, c'est un repère géographique qui me semble beaucoup plus neutre, qui me semble ne pas renvoyer à une notion ethnique. Et au-delà de ça, il y a une autre dimension d'identité qui est hyper importante, c'est le fait que je sois musulmane. Parce que quand on est une personne musulmane vivant en Europe, on va dire que c'est un axe d'altérisation hyper fort. C'est-à-dire que les interactions que les gens vont avoir avec moi sont souvent teintées de ce qu'ils pensent être une femme musulmane.
Complètement.
Voilà.
Mais en fait, moi, tu sais, je te posais cette question parce que justement, les engagements que tu portes aujourd'hui, quelque part, ils viennent de ces identités multiples qui font partie de toi. Donc, je me demandais si c'est quelque chose, ces injustices, enfin, les injustices pour lesquelles tu luttes aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ressentais déjà avant, quand tu étais beaucoup plus jeune, ou c'est quelque chose qui t'a éclaté en pleine figure à un moment donné, en fait.
Alors, je pense que j'ai eu pendant très longtemps vécu un certain nombre de choses et vécu en fait naviguer autour de ces injustices sans vraiment les formuler dans une comment dire de façon claire dans ma tête. Par exemple, tu peux vivre des trucs racistes, comprendre plus ou moins que c'est du racisme, mais pas formuler en fait une pensée antiraciste complète dans ta tête. Et donc,
Complètement.
comment dire, qui te dit, voilà, là, il y a une nécessité d'action. Donc, en fait, il y a une collection d'expériences. Donc, par exemple, je t'ai parlé de l'expérience de mes parents qui ont dû quitter très vite leur emploi. Et donc, ça, c'est une expérience liée au classisme. Tu la vis et tu comprends plus ou moins d'où elle vient, mais il te faut réussir à connecter en fait les points. Après, j'ai vécu des choses liées au fait d'être une femme, comme nous toutes. J'ai vécu des choses liées à ma couleur de peau. Et ça met du temps en fait à se connecter. Par contre, il y a un événement particulier qui fait que j'ai commencé à faire sens d'un certain nombre de choses qui flottaient autour de moi et qui me mettaient dans le malaise. il y avait la votation de 2009 sur les minarets en Suisse, l'interdiction des minarets. Et en fait, comme pour beaucoup de personnes musulmanes en Suisse, ça a été un choc terrible de se rendre compte du jour au lendemain que, en fait, on vit dans une société où la majorité des personnes souhaitent notre invisibilité. Parce que c'est ça que ça voulait dire, en fait. Quand on dit pas de minaret, ça veut dire que les gens disent « Je veux que quand je marche dans la rue, je n'ai pas la sensation qu'existent des personnes musulmanes ici. » Et ça a été un choc assez important. Il faut savoir que 2009, en plus de cette question des minarets, c'était, on va dire, un tournant aussi dans ma vie personnelle, puisque j'ai perdu ma mère fin 2008. Et en fait, pour tout un tas de raisons familiales aussi, ça a été un deuil qui a été extrêmement compliqué pour moi. Mon parcours en termes de, on va dire, de santé mentale, c'est beaucoup intriqué à mon parcours militant.
Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? D'où est venue justement cette volonté? Parce que tu sais, on peut parler entre amis et formuler des idées engageantes. On peut... parler dans un café ou je ne sais pas, inconnu, et être engagé dans ce qu'on dit, mais pas forcément s'engager tel que toi tu le fais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette période de ta vie et pourquoi est-ce que c'est important pour toi?
Oui, alors je pense que si je devais donner 2-3 détails sans vouloir étaler ma vie familiale, je dirais premièrement que je suis la fille aînée. Et la fille aînée, c'est une position qui est assez particulière dans une famille immigrée. C'est souvent celle qu'on appelle la petite maman. Et c'est marrant parce que des années plus tard, mais vraiment bien des années plus tard, j'avais réussi à trouver une psy d'origine nord-africaine aussi. Parce que pendant longtemps, j'avais l'impression de ne pas être compris par les professionnels de santé, de ne pas réussir à aller au fond, en fait, même quand j'entreprenais des thérapies. J'ai cette psy qui était donc nord-africaine et qui me dit « Est-ce que vous savez ce que c'est un enfant parentifié ?» Et je lui dis non, puis elle me dit, elle m'explique en gros que c'est un enfant qui est souvent en fait l'aîné de la famille, a été mis dans une position familiale dans laquelle il a l'injonction d'être la continuité de ses parents et d'assumer en fait les responsabilités beaucoup plus jeunes en fait qu'il aurait dû. Et c'est vrai que quand je regarde mon histoire familiale, en fait j'ai ma plus jeune sœur, elle est porteuse de handicap. Et donc en fait ça a toujours été dans ma famille, j'ai toujours été en fait la désignée, mais depuis l'âge de 6-7 ans en fait, je le sais, on me dit ah toi quand tu seras plus grande Inès, c'est toi qui t'occuperas d'elle quand nous on sera plus là, ce qui personnellement aujourd'hui me va très bien parce que j'ai aussi grandi et appris énormément de choses au contact de ma sœur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, il y a la notion de, comment dire, de légèreté de l'enfance qui quitte tout de suite, en fait.
Complètement.
Voilà. Donc, il y avait aussi le fait que ma mère étant analphabète, j'étais son interlocutrice pour lire les papiers administratifs, lire les notices de médicaments, ce qui n'était pas forcément simple dans les périodes où elle était malade, puisqu'elle a eu le cancer. Effectuer un certain nombre de
choses. Tu avais quel âge ?
Bah, en fait, elle a commencé à... Enfin, elle a eu le cancer quand j'avais 16 ans. Puis elle l'a eu pendant une dizaine d'années.
Wow.
Et donc, en fait, j'étais souvent l'interlocutrice pour tout ce qui était l'admin, en fait, dans la famille, c'est-à-dire écrire les lettres, machin et tout. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une sorte de phobie de l'admin qui, d'ailleurs, me joue souvent des tours d'un point de vue tu vois, entre les factures que tu oublies de payer, les impôts que tu renvoies jamais à l'heure, etc.
Ouais, c'est chaud.
mais d'ailleurs c'est marrant, mais j'ai remarqué qu'on était beaucoup de personnes issues de l'immigration qui avions en fait la phobie administrative, tu vois, aller à des guichets, demander des trucs et tout, c'est pas simple en fait. Mm-hmm. En gros, voilà, il y avait donc un peu cette atmosphère familiale qui faisait que, très jeune, j'ai eu cette responsabilité en tant que grande sœur en fait, de devoir être la petite maman.
Ouais. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Et lorsqu'ils en reparlent à un âge plus avancé, effectivement, souvent ils disent que j'étais un peu trop jeune et j'avais besoin d'un peu plus jouer.
D'être un peu plus l'enfant.
C'est ça, ouais.
Et donc, ça, effectivement, ça a joué un rôle assez important dans mon militantisme. Mm-hmm. Premièrement, parce que, en fait, moi, j'ai toujours été une très bonne élève. Mmh. Tu vois, j'ai été toujours une très bonne élève avec les super bonnes notes, etc. Parce qu'évidemment, c'est ce que les parents ils attendent de toi. Mmh. Et quand t'es une femme racisée, tu comprends très vite par ta famille que t'as pas le droit d'être moyenne. Mmh. Et pourquoi ? Parce que nos parents, en fait, finalement, ils sont aussi en train de gérer leur trauma de l'exil et de la migration, et eux, ils se sont toujours trouvés dans une situation où ils n'avaient pas les choix, en fait. Ils devaient survivre, faire leur vie, etc. Et en fait, nos parents, ils ont toujours été dans cette situation où ils ne pouvaient pas échouer. Parce que s'ils échouaient, ils n'avaient pas de filet. Mmh. Et donc, en fait, échouer n'est pas une option. Et donc, pendant longtemps, j'ai cultivé un peu cette idée du tout ou rien, tu vois. Mm-hmm. Et à l'école, ça marchait bien, parce qu'à l'école, tu sais ce que tu dois faire. Mm-hmm. Tu dois réviser, passer les examens, puis quand tu as les examens, tu as les bonnes notes, et puis quand tu as les bonnes notes, tu passes l'année prochaine, etc. Mm-hmm. Et puis moi, qui avais de la facilité, j'avais un peu mon côté geek, qui aimait la lecture, qui aimait les sciences, etc. Bon, mm-hmm. qui était super nul en gym.
Non, mais la gym à l'école, est-ce que ça compte vraiment ?
Ouais, mais bon, ça, on en parlera peut-être après, parce que j'ai mis plus de 25 ans à dépasser cette peur du sport, mais ça, c'est encore un autre sujet. À l'école, quand t'es à l'école, c'est facile de savoir, enfin, c'est facile de croire à la méritocratie.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on a tous le même examen.
Exactement.
On passe tous le même examen, mm-hmm. et on est noté sur le même nombre de points. Mm-hmm. Dans la vie, c'est pas comme ça du tout.
Pas du tout.
Parce que si t'es blanc, on va dire que tu... Si t'es un homme blanc, on va dire que tu passes un examen beaucoup plus facile que si t'es une femme racisée, par exemple. Mm-hmm. Tu vois. Et du coup, moi, j'ai été excellente pendant mes études. Mm-hmm. Et j'avais commencé un doctorat en astrophysique. Parce que vraiment, je t'ai dit ce truc que je voulais être astronaute et tout.
Oui.
Mais au bout d'un moment, j'ai compris que les astronautes, en fait, ils faisaient l'armée. Et qu'à l'armée, tu faisais plein de sport. Et puis... et que moi, même les manèges de la fête de Genève, je les tenais pas bien sans revenir. Donc j'ai vite compris que astronaute c'était non. Mais astronome, astrophysicien, je me suis dit c'est le truc le plus proche.
Quoi. Ok, nice.
Et j'ai adoré mes études d'astronomie, d'astrophysique. J'ai adoré. Mm-hmm. J'ai souvent été excellente là-dedans en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai passé mon master avec tous les honneurs, etc. J'ai commencé un doctorat et ma mère est décédée en fait. Et du coup, je suis tombée dans une spirale de dépression. Mm-hmm. et j'ai arrêté. Mm-hmm. Cette thèse parce que véritablement en fait, cette période de vie était aussi très compliquée à gérer. Et puis la gérer dans un milieu aussi spécifique que la recherche scientifique, mm-hmm. c'est-à-dire où tu dois gérer la solitude, le fait d'être seul devant tes questionnements, l'erreur, l'échec, mm-hmm. tu vois. Comme je te disais, moi j'avais un peu cette mentalité du tout ou rien. Mm-hmm. C'était très très difficile pour moi, donc j'ai quitté ça un peu, tu vois. Et puis bon, j'étais en dépression, etc. Et puis là, je me suis mise sur le marché du travail. Et le marché du travail, c'est, ça n'a rien à voir avec le on a tous le même examen, et, tu vois.
Non,
et,
je
c'est
vois.
Le nombre de points qui compte. Mm-hmm. Et ça a été en fait. C'est la période où j'ai déconstruit cette notion de méritocratie. Enfin, j'ai déconstruite, mais ça ne veut pas dire que je ne continuais pas à en souffrir.
C'est ça, c'est imprégné dans tout en fait. Enfin, vraiment, c'est vraiment si tu veux, tu peux. Si t'as les capacités, tu peux. C'est un peu quelque chose qui est implicite partout.
Donc, ouais, et c'est là où après il y a eu le cheminement vers le militantisme parce que en fait, la pire des situations, c'est de se rendre compte de quelque chose et de ne pas pouvoir faire quelque chose pour. C'est la chose la plus douloureuse.
Tu parles de quoi exactement?
Par exemple, de comprendre de mécaniques, par exemple, racistes ou sexistes, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. De comprendre comment est-ce qu'elles surviennent. Et puis moi, tu vois, j'ai un peu ce côté geek, tu vois. Je veux dire, bon, moi, j'ai étudié des sciences, mais j'étais du genre, je pouvais prendre un livre de sociologie, de géographie, d'histoire, etc. Donc, moi, je suis un peu du genre, j'essaye de comprendre, en fait, tu vois. Donc, j'ai évidemment beaucoup lu les théories liées aux discriminations, évidemment avec tout le travail des penseuses, notamment afro-américaines, qui ont tellement enrichi la pensée militante du XXe siècle. Et donc, en fait, tu commences à comprendre des trucs, parce que tu cherches, tu lis, tu compares, etc., Et comprendre et voir les mécanismes qui se font sous toi et devant tes yeux et ne rien faire, c'est la pire des choses. Mm-hmm. Il y a des moments en fait où je me suis sentie vraiment presque fâchée contre moi-même d'avoir mm-hmm. D'avoir eu ce besoin de comprendre les choses, de les comprendre, de les avoir déconstruites. Mm-hmm. Parce que je me disais, en fait, c'est beaucoup moins douloureux de ne pas être passé par ces phases de déconstruction. Parce qu'au moins, oui. Tu ne te rends pas compte de certains trucs. Bon, après, je dis ça, mais en vrai, c'est pas que tu es moins en colère, c'est que la colère, tu la retournes contre toi. Et moi, cette colère, pendant longtemps, je l'ai beaucoup retournée contre moi, à la fois sur les injonctions, on va dire, sociales générales, mm-hmm. et sur les injonctions familiales internes. Je les ai beaucoup pris sur moi. J'ai développé des troubles alimentaires compulsifs, etc. Et c'était ma manière de subir sans répondre.
D'accord. Donc, quand tu vivais certaines injustices, tu ne savais pas, tu ne comprenais pas les structures. Comprends. Donc, d'où ce besoin de vouloir déconstruire, de Exactement. Mieux comprendre.
Exactement. Il y a des moments où tu te dis, en fait, ce serait tellement mieux si...
Je ne savais pas tout. Ouais, ouais. Ouais. Mais au final, non, parce que tu te fais du mal... quelque part, mais tu m'as pas vraiment dit comment t'as fait pour sortir de cette phase difficile, parce qu'avec le deuil que tu vivais et puis les études, et enfin il y a plusieurs choses qui étaient assez compliquées, on va dire, à ce moment-là, en 2009, c'est ça. Comment t'as fait pour te relever vraiment, enfin pour que ça aille mieux?
Alors c'est pas simple. En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que au sein de ces difficultés, j'ai commencé à relativiser le self-hate que j'avais pour moi-même sur certains aspects. Par exemple, j'étais quelqu'un d'extrêmement complexé sur mon physique. Mm-hmm. J'étais quelqu'un de très timide. Mm-hmm. Et en fait, dans cette phase-là, j'ai commencé à réussir à sortir... le blâme de moi à l'extérieur, tu vois, en me disant je suis pas la cause de tout ce qui m'arrive, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc en fait, il y a de l'amour de soi-même qui commence un peu plus à se construire. Mm-hmm. Et en fait, quand tu t'aimes, alors c'était pas comme si c'était une dose d'amour incroyable à l'époque, mm-hmm. mais tu commences à quand même te dire je mérite mieux que de vivre dans cette situation difficile. Mmh. Donc il y a ça.
Avoir de la compassion pour soi.
Deuxièmement, il y a des moments où évidemment mon entourage m'a aidé à ne pas sombrer. Mmh. En particulier, j'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi, qui a un an et demi de moins que moi, qui s'appelle Mounia qui a un côté un peu tough love. C'est-à-dire que... et en fait, c'est un peu à double tranchant parce que je me suis toujours rendu compte que j'ai un peu ce... Des fois, l'appréhension de certaines choses qu'elle pouvait dire ou la manière dont elle pouvait les dire. Mais qu'en même temps, ce qu'elle disait, enfin, c'était souvent des descriptions crues et directes des choses et dont des fois tu as besoin pour, comment dire, te dire, ok, là je me reprends un peu, quoi. Donc il y avait aussi beaucoup de ça, tu vois, le fait de me dire, ah bon, il faut que je sois un peu... La troisième chose, et ça
c'est, entourée,
voilà, c'est très important, c'est que donc j'avais ma plus jeune sœur, celle qui est porteuse de handicap, en fait c'est moi qui m'en suis occupée après le décès de ma mère. Donc j'ai été sa proche aidante. Et en fait, quand t'as quelqu'un à responsabilité, tu peux pas être complètement sous terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne dois pas me lever pour cuisiner, pour lui parler, pour lui donner mon oreille, pour lui donner de l'affection, etc. Tu vois? Parce que je pouvais accepter de souffrir, mais je ne pouvais pas accepter qu'elle souffre. Et même si il y a des fois où... à mon avis, c'était pas au top, c'était, je faisais comme je pouvais, et puis il y a certains moments où c'était peut-être pas très facile, où genre t'es trop fatiguée pour ranger, tu dois l'amener chez le médecin, mais t'as toi-même la tête dans dans le coton, des trucs comme ça, tu vois. Mais on va dire que je pense qu'en regardant mon chemin passé, je peux quand même me dire, tu l'as fait, t'as réussi, quoi. Et ça, c'est un truc aussi qui te garde, tu vois.
Ouais, j'imagine, ouais.
Et quand... la thérapie.
Oui, bien sûr, ouais. Par rapport à où t'en es maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour justement... te préserver d'une prochaine dépression, pour prendre davantage soin de toi là maintenant?
Alors, pour être honnête, je suis pas encore une pro du self-care, vraiment pas, et ça j'essaye d'apprendre des femmes extraordinaires qui sont autour de moi et qui réussissent souvent avec leur perspective un peu différente à me montrer, mais en vrai je ne suis pas encore experte de ça, c'est-à-dire que j'ai encore un peu cette mentalité, des fois, on a un truc à faire, il faut aller à fond. Par exemple, avec les collectifs que j'ai, il y a des moments où on a dû faire des campagnes politiques, il ne faut pas dire non à des sollicitations médiatiques, il faut être sur tous les fronts, il faut être à la fois au four et au moulin, etc. J'ai un peu cette façon de faire. Et des fois, j'ai l'impression de brûler la chandelle par les deux bouts. Mais après, comme j'arrive beaucoup mieux qu'à l'époque, en fait, à déceler ces signes, j'essaye d'un peu mieux anticiper. Et l'une des choses, en fait, les plus importantes qui me permet, en fait, de prendre soin... de moi, c'est l'écriture. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai découvert. En fait, je peux même pas vraiment dire que je l'ai découvert à un moment, parce qu'en fait, j'écris depuis que je suis petite. C'est marrant, j'ai trouvé parfois des histoires que j'écrivais à l'âge de 10 ans qui sont.
Trop mignon.
Moi, je me rappelle, une fois, j'avais écrit toute une histoire de comment je gouvernerais le monde si j'étais présidente des États-Unis, tu vois. J'ai un délire de puissance.
Excellent.
Ou alors, évidemment, astronaute, ou bien des... Mais, ou alors des histoires qui font peur, des machins comme ça. Bref, c'est drôle, mais ce que je veux dire, j'ai souvent écrit depuis que j'étais petite, mais plutôt dans le mode escapisme, tu vois, s'échapper de... Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en fait, mon écriture... J'avais une bonne écriture. Alors c'est peut-être aussi un peu un côté, tu vois, méritocratique encore, tu vois, du genre on s'investit dans ce qu'on sait où on est bon. Mais je me suis rendu compte que j'avais cette facilité avec les mots, à la fois à l'oral et à l'écrit. J'ai remarqué aussi que j'arrivais à capter l'attention des gens avec ça. Et ça, en fait, alors que j'ai que si tu regardes mon cursus scolaire, c'est pas du tout quelque chose qui est requis de quelqu'un qui fait des sciences exactes. Enfin, bien sûr que ça le peut, mais ce que je veux dire, c'est pas la qualité principale à laquelle tu penses quand tu penses à un scientifique. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais quand même cette facilité, et j'avais remarqué que les gens étaient attirés vers moi à partir de la manière dont je parlais et de la manière dont j'écrivais. Du coup, j'ai commencé à cultiver de manière un peu plus, comment dire, organisée. Donc, à cette époque-là, j'ai ouvert deux blogs. Un blog qui était purement lié à un aspect artistique, des histoires courtes, des poèmes, de la photographie.
Excellent, oui.
Et un autre qui était un blog vraiment politique. Tu vois, dans le sens où je mettais mes réflexions politiques. Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, je trouverais que plein de mes idées politiques de l'époque, c'était sûrement de la merde. Mais voilà.
On évolue en 10 ans.
J'étais sûrement en train de déconstruire des trucs et tout. Mais ça m'a permis, c'était quand même une école qui m'a permis de réussir tu vois, à sortir ce que j'ai là, dans la tête, à le mettre sur le papier, et de différentes façons. Et du coup, maintenant, quand je vis des périodes difficiles, j'essaye de réussir à trouver des moments où je me dis, tu dois extraire de toi, en fait, ce qui est en train de couver. Là, ce que tu as l'impression qui est coincé à l'intérieur de toi, il doit sortir.
Complètement.
Voilà.
L'écriture, c'est vraiment un outil de guérison qui est puissant, vraiment. Ouais. Même de mon expérience personnelle. Parfois, même lorsque tu mets sur papier, ça permet vraiment pas tant de relativiser, mais d'avoir une perspective qui est complètement différente, en fait.
Ouais.
Parfois, tu trouves des solutions. Parfois, tu trouves pas de solution. Mais au moins, ça permet de souffler un bon coup et de voir que bah, peut-être que là, il faut accepter. Et comment est-ce que je peux mieux accepter la situation?
Oui, et en fait, ça a aussi permis de réparer une forme de blessure narcissique que j'ai, qui est que moi, on m'a toujours dit que je suis la fille pas organisée, en retard au rendez-vous. Bon, j'étais en retard, par exemple, aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en excuse. Il y avait un peu ce côté, tu vois, où je me suis souvent dit, toi, Inès, le gros boulet que tu vas toujours traîner dans ta vie, à ta cheville, c'est que t'es une bordélique, tu vois, dans tous les sens, t'es chaotique, t'es bordélique, etc. Et en fait, grâce à l'écriture, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, oui, je suis peut-être pas organisée, on va dire, dans certains aspects, mais ma pensée, elle, est très très organisée. Et en fait, ma capacité d'analyse, ma capacité à construire en fait le fil d'un récit, elle est très organisée. Ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on me dit « tes propos sont très clairs, etc. Et » et souvent, quand j'écris, ça m'aide à clarifier pour moi-même.
Complètement, ouais, je vois. Ouais.
Et en fait, quand tu réussis déjà à clarifier ta propre pensée pour toi-même, c'est que tu es déjà en train de te mettre en action un peu.
Nice. Tu disais avant que tes engagements sont nés de cette période qui était assez difficile. Il était devenu primordial, nécessaire, urgent de déconstruire tous ces systèmes pour mieux les comprendre et mieux les appréhender pour que ça ne te fasse pas du mal à toi-même. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça. Faites des vagues, on a pas mal parlé avec Vista, donc on va pas forcément revenir là-dessus. On peut plus parler des foulards violets.
Ouais.
Tu faisais déjà partie de Faites des vagues avant de confonder les foulards violets. Comment ça s'est passé pourquoi est-ce que tu as voulu participer aussi activement à un autre collectif? Pourquoi c'était important pour toi? Est-ce que tu me dis un peu plus sur la genèse de ce projet?
Ok, alors en fait, il y a eu un peu un tournant dans ma vie autour de 2014-2015 où j'ai réussi à passer de la pensée qui se, tu vois, déconstruction, reconstruction de la pensée, à l'action. Donc c'est là où j'ai commencé à être beaucoup plus active dans des organisations militantes. Donc enfin, j'ai commencé à fréquenter un peu des cercles militants, etc. Et il y a eu la fondation de la cofondation du collectif Faites des Vagues, qui a été en fait, pour moi c'est un peu, dans ma tête c'est mon premier bébé, tu vois. Et en fait, ce qu'on fait dans le collectif Faites des Vagues, c'est que on est souvent en fait en discussion sur tout un tas d'aspects, mais on est toutes aussi très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, au sein du collectif Faites des Vagues, qui est un espace extrêmement bienveillant, nous sommes toutes des femmes racisées, mais nous sommes d'origines très différentes. Certaines sont musulmanes, d'autres ne le sont pas. Certaines sont en fait, on va dire, plutôt un profil académicien, et d'autres vont être un profil plus juridique ou professionnel. Donc en fait on est un mix assez hétéroclite. Et en fait il y a une sorte de formule magique qui fonctionne sur il y a une sorte d'énergie créatrice très forte. Et là où on est les plus fortes, c'est quand on essaye de, quand on peut imaginer en fait sur des projets sur le plus long terme, qu'on imagine en fait on réussit à parce qu'en fait pendant longtemps, en fait, pour moi, militer, c'était réagir à des trucs. Réagir à des propos racistes. Réagir, je sais pas moi, à un machin pour lequel il faut faire une manif, etc. Donc en fait, j'étais souvent dans la réaction. Et en fait, avec Faites des Vagues, j'ai découvert que le militantisme, c'était aussi des opportunités de création. Et donc avec Faites des Vagues, on a souvent été dans la création. Et Foulard Violet, c'était un peu différent parce que dès le début, on s'est dit voilà, nous, notre but, c'est de visibiliser quelque chose dont on parlait déjà au sein du collectif Faites des Vagues. Et comme le collectif Faites des Vagues était beaucoup plus hétéroclite, c'était un sujet parmi d'autres duquel on parlait. Avec les Foulards Violets, que j'ai confondé donc avec d'autres personnes que je connaissais aussi par ailleurs, parce qu'on gravite tous un peu dans ce milieu militant, on va dire féministe et antiraciste. On s'est dit voilà, on a besoin que quelque chose de spécifique émane des femmes musulmanes en Suisse, qu'elles portent ou pas le foulard, mais qui se mobilisent et se solidarisent avec celles qui veulent le porter, parce que la question du foulard est une question qui est de plus en plus, on va dire, qui prend de plus en plus d'espace dans les débats politiques, et souvent instrumentalisés par l'extrême droite. Alors, on va dire qu'il y a un effet tache d'encre qui vient de ce qui se passe en France. Dès qu'il y a des débats en France, moi, dès qu'on voit des débats en France sur un truc, tu sais que dans 6 mois après, en Suisse, on en parle. Tu
vois. Malheureusement, oui.
Exactement. Et donc, en fait, on avait besoin d'un espace qui soit dédié exclusivement à cette question-là. Enfin, la question de l'islamophobie, on va dire, dans sa dimension genrée, c'est-à-dire la manière dont les femmes musulmanes vivent l'islamophobie, qui elle aussi est un peu différente de la manière dont les hommes musulmans vivent l'islamophobie.
Complètement.
Et en même temps, comme on était toutes dans ces espaces féministes et antiracistes, c'était important pour nous de l'intégrer à la réflexion féministe. Parce que pour nous, c'est un enjeu féministe, cette question du foulard. On nous a souvent instrumentalisé, le féminisme contre nous, femmes musulmanes. Bah là, c'était le moment de dire, non, en fait, quand on prend la parole par nous et pour nous, voilà ce qu'on a à dire sur ce sujet.
Complètement.
D'un point de vue timing, ça, c'est arrivé au moment de la grève féministe de 2019.
D'accord.
Quand dans les... dans les mois qui ont précédé la grève féministe de 2019, on commençait beaucoup à parler de cette grève, de ce mouvement national qui se préparait. Et puis il y avait un côté, allez, on va toutes se battre ensemble pour nos droits, etc. Et en fait, dans le discours, dans les discours, dans ces mois qui précédaient la grève, on parlait beaucoup d'inégalité salariale, on parlait beaucoup des plafonds verts, etc. Et quand nous, en tant que femmes musulmanes, on parlait entre nous, donc moi, bon, les auditeurs, auditrices ne me voient pas, je ne porte pas de foulard, donc moi, j'ai la chance d'avoir un travail, mais certaines, du fait qu'elles portent un foulard, elles n'arrivent même pas à trouver de job. Elles postulent, on ne les prend pas. Il y a des règlements, par exemple à Genève, tu ne peux même pas travailler dans le service public avec un foulard. Donc en fait, il y a des gens qui étaient là, quand on en parlait entre nous, il y avait certaines, celles qui portaient le foulard, elles se mettaient à rire. Elles font, mais tu veux que j'aille militer pour le plafond de verre alors que je n'ai même pas le droit d'avoir un job? Tu vois, et quand t'es là, ouais, c'est pas normal. Et donc, du coup, on était là, mais il peut pas y avoir un mouvement national sur la question d'inégalité femmes-hommes sans visibiliser le fait que certaines femmes subissent de plein fouet, en fait, encore plus que les autres femmes, les effets des inégalités, des discriminations, notamment. Donc, cette alliance entre discrimination sexiste et raciste. Et du coup, on s'est dit, faisons quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'être visible pendant la grève. Donc, on s'est un peu passé, en fait, le mot avec plusieurs amis. On s'est dit, rendez-vous tel jour chez Inès et on va discuter de ce qu'on va faire. Et donc là, on s'est retrouvé à peu près une vingtaine chez moi. C'était un soir de Ramadan. Et donc, on a fait un espèce d'énorme tour de table de ce que chacune voulait, en fait. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des femmes qui étaient là, en fait, dès qu'elles prenaient la parole, elles se mettaient à pleurer. Parce qu'elles disaient, c'est la première fois que je peux en parler. C'est la première fois que j'en parle et que cette souffrance, ce rejet qu'on me signifie tous les jours, que ce soit quand j'envoie un CV, ou quand je me fais insulter dans la rue, ou quand je me fais arracher le foulard, ou quand je vais déposer plainte parce qu'on m'a agressé et puis qu'on refuse de prendre ma plainte, les insultes, les trucs, quand on traite mes gamins de 5 ans de terroristes, des trucs un peu comme ça, mais des histoires, tu vois, très, très chargées. Et puis en fait, il y avait plein de choses qui ressortaient, qui remontaient à la surface. Et donc on a fait cet énorme tour de table où on a consigné absolument les demandes de tout le monde, tout ce que tout le monde, sur quoi on voulait s'exprimer. Et ensuite on a un petit groupe parmi ces personnes qui étaient là, qui se sont chargées de rédiger des revendications, on va dire formulées. Tu vois, point, par catégorie, etc., à partir de ce que tout le monde avait dit.
D'accord.
On était quatre à faire ça. Donc, il y avait moi, il y avait notamment Myriam aussi, Myriam Astour, qui est aussi très active au sein des Foulards Violets. Il y avait d'autres personnes. Et en fait, on a fait ces revendications. On les a publiées, on les a envoyées à la grève, et puis on a fait des pancartes, etc. Puis, on a donné comme mot d'ordre... c'était la fin du Ramadan, on avait fait des sortes de petits flyers, on les a distribués à la sortie de la prière de l'Aïd. T'es féministe, tu veux militer pour le droit des femmes qui portent un foulard à pouvoir, rejoins-nous. On a fait une page Facebook, une page Instagram, etc. Et on se disait, on va être une trentaine, quoi. Le jour du défilé, on était près de 150.
Waouh!
On était vraiment, à Genève, on était le cortège vraiment le plus visible. De la grève. On a fait du bruit, on a pris l'espace, etc. On a eu certaines personnes qui nous ont aussi attaqué, qui sont venues dire des trucs du style, si vous n'êtes pas contente, vous retournez en Arabie Saoudite, vous allez en Allemagne.
Excuse-moi, mais c'est tellement absurde.
Un des points de revendications, c'était justement de ne pas être toujours envoyée à l'ailleurs. C'est-à-dire que les femmes musulmanes font partie de la société suisse, qu'elles soient nationales ou pas, tu vois, je veux dire qu'elles soient de nationalité suisse ou pas, qu'elles soient migrantes ou pas, qu'elles aient des papiers ou pas ou quoi, mais les femmes musulmanes, en fait, elles font partie du tissu de cette société. Donc, qu'est-ce que tu viens de dire quand je suis née ici, quand la plus... ou alors quand je vis ici depuis 10 ans, ou quand tous les matins je me lève pour travailler ici, qu'est-ce que tu viens de me dire?
Et surtout, moi, ce qui m'étonne dans ce genre de discours, c'est qu'est-ce que tu viens me dire si tu es dans une manifestation féministe, donc tu es engagée en tant que femme féministe, et tu viens quelque part enfreindre ou limiter le droit d'une autre femme à manifester.
Ouais.
Elle commence ça, sur la logique.
Tout à fait. Et ça, en fait, c'est une certaine vision du féminisme qui pense qu'il n'y a qu'une seule manière d'être une femme libérée. Et en fait, on a eu des gens qui sont venus nous dire « c'est indigne ce que vous faites ». Soit indigne d'être dans une manif féministe, avec des slogans féministes, en train d'avoir une revendication féministe. Mais ce qui était indigne, c'était nous, ce que nous étions, en fait, finalement. Bah, je dois dire, en fait, et c'est important de préciser, c'est absolument pas dans l'organisation de la grève qu'il y a eu ça. Oui, parce qu'en fait, au contraire, l'organisation de la grève, donc le collectif de la grève féminine et féministe, a toujours été hyper accueillant envers nous, puis a fait aussi en sorte que nous on fasse partie du mouvement.
Bah après, il y a ce qui se passe au-dessus, bien sûr. Et après, il y a ce qui se passe avec les personnes avec qui on interagit. Et souvent,
il peut y avoir un décalage. Il y avait des centaines de milliers de femmes dans la rue ce jour-là. Donc, c'était des femmes qui étaient venues manifester à l'appel de la grève, mais qui n'appartenaient pas elles-mêmes à la grève.
Exactement.
Mais du coup, en fait, cette vision... cette vision très hégémonique, tu sais, ce féminisme blanc qui est encore très tenace en fait, et qui fait que on a cette vision qu'en fait des femmes qui portent un foulard, c'est des femmes soumises, je ne sais pas quoi, c'est vraiment très présent dans les esprits.
Mais justement, tu as parlé de la grève féminine et féministe, si j'ai bien compris, les foulards violets fait partie de la grève féminine et féministe?
Alors, nous, on s'est créé au moment de la grève. Ensuite, quand on a fait la grève, etc., on s'est dit, nous, on veut continuer à participer à la grève.
Oui.
Ce qui veut dire qu'on est... On a notre autonomie, mais on a une interaction très forte avec la grève.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans les revendications générales de la grève. Et donc, nous, on participe aussi à un certain nombre de choses au sein de la grève, en termes d'organisation de la grève, etc. Et on a cofondé le groupe de travail sur les antiracismes au sein de la grève. Donc, on s'est mis avec des collectifs afroféministes et on a cofondé ce collectif afro-suisse et collectif afroféministe à Mani. Et on a cofondé donc le groupe de travail sur les antiracismes.
Excellent.
Parce qu'en fait, nous pensons que il y a un problème en Suisse, c'est que on ne voit pas que l'antiracisme c'est une condition sine qua non du féminisme. Or, ça ne devrait même pas être
un débat.
Ça devrait même pas être un débat. C'est-à-dire que les femmes qui subissent à la fois le sexisme et le racisme, elles ne peuvent pas en fait choisir de désintriquer ces deux oppressions. Elles sont forcément en train de vivre les deux en même temps. Et donc, si tu ne tiens pas compte du fait que parmi les femmes, certaines ont le privilège de ne pas vivre le racisme et d'autres le vivent, en fait, ton féminisme, il va taper à côté. Et un féminisme qui soit inclusif, il doit prendre en compte à la fois l'antiracisme, mais aussi les LGBTQ-phobies, le validisme, qui est encore, je trouve, une des dimensions les moins bien intégrées dans le féminisme mainstream. Et donc, en fait, il ne devrait pas exister de féminisme qui ne pense pas à la question, à la question du racisme. Et c'est ce que nous, on essaye de faire, c'est que le racisme soit mieux pris en compte.
Complètement. Avant, tu parlais du fait que lors de ce soir de Ramadan, avec toutes ces vingtaines de femmes dans ton salon, il y en a beaucoup qui ont pleuré. Ça a permis parce qu'elles n'avaient pas l'espace ni la place pour, donc quelque part, ce collectif il a permis de créer cet espace pour libérer la parole de toutes ces femmes, donc quelque chose qui est nécessaire. Mais au-delà de ça, est-ce que on parlait justement du cas des femmes qui disaient que bah tu devrais avoir honte, toi, qui tu es en tant que femme, d'être féministe pour ce que tu es, en fait. Et du coup, est-ce que ça a permis la création du Foulard Violet, qui fait un travail de communication gigantesque, énorme, et donc, enfin, il y a tout un travail de communication, de vulgarisation, de conscientisation qui se fait au sein de ce collectif. Est-ce que justement la place que prend ce collectif dans l'espace public, ça a permis quelque part de créer un pont de communication avec toutes ces femmes qui ne comprennent pas qu'on peut être une femme musulmane et être une femme féministe?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a eu des personnes qui non musulmanes qui, le jour de la grève, viennent nous dire en manif « Ayez honte de vous, vous êtes en train de trahir les femmes d'Afghanistan ». Mais on a... Non, pour de vrai. Et puis...
Désolée, oh mon
Dieu. Surtout qu'en fait... j'aime toujours le rappeler, mais on n'est ni pour le foulard, ni contre le foulard. On est pour le choix. Tu vois, on est contre l'interdiction, qu'elle soit dans un sens ou qu'elle soit dans l'autre. Donc nous, dans le collectif, il y en a certaines qui le portent, d'autres qui le portent pas. Et celles qui le portent, elles le portent pas toutes de la même manière. Et nous, le but, c'est vraiment pas d'entrer dans les interprétations religieuses de si le foulard c'est si ça, si c'est obligatoire, pas obligatoire, etc. Donc nous, on est très clair sur le fait qu'on n'est pas un groupe d'interprétations religieuses. Et le truc, c'est que souvent, en fait, il y a quand même, comme on vit dans une société patriarcale, et que nos communautés, elles sont aussi empreintes de patriarcat. Donc il y a doit subir le patriarcat blanc, on doit subir le patriarcat intracommunautaire. Et donc nous, on a aussi des trucs à dire sur le patriarcat intracommunautaire. Le seul truc, c'est qu'on veut pas qu'il soit instrumentalisé pour à des fins racistes. Tu vois, contrôle aux faciès, violences policières, les histoires de refuser des permis B aux gens, etc. Donc nous, on veut pas que ce soit instrumentalisé dans des politiques racistes et anti-migratoires, mais c'est pas pour ça qu'on va se taire sur les trucs qu'on peut subir à l'intérieur de nos communautés, parce que les hommes étant vivant dans un système patriarcal, ils ont des privilèges, qu'ils soient musulmans ou pas. Et donc, en fait, on s'est quand même retrouvé souvent à avoir des débats de femmes qui avaient intériorisé certains... comme on a aussi dans la société, on va dire, entre guillemets, générale. On est toutes déjà dans nos vies tombées sur des femmes qui disent « Non, mais le féminisme, il invente des problèmes qui n'existent pas. La culture du viol, ça n'existe pas. L'écart salarial, c'est du bullshit, etc. » Donc ça... Il y en a partout, mais il y en a aussi dans nos communautés des gens qui disent « Non, mais je vais être, entre guillemets, contre les préceptes de ma religion si je suis féministe. » Or, entre guillemets, les préceptes de la religion, en fait, ils sont pas juste posés comme tels. C'est qu'il y a une interprétation qui est faite de propos des sources religieuses. Il y a 1400 ans de tradition aussi derrière qui façonne une manière de penser les choses, etc. Et il y a des façons aussi de vivre sa religion de façon non patriarcale, mais vu que la plupart vu que c'est surtout des hommes qui ont pris la parole pendant ces derniers 1400 ans sur les questions d'interprétation religieuse, ils ont fait des interprétations patriarcales qui les arrangent, quoi. Et ça, le fait de remettre ça en question en étant féministe, même si nous on rentre pas dans les batailles théologiques, mais le fait rien que de dire je suis féministe, pour beaucoup de personnes, c'est un pas qui n'est pas simple à faire. Et en fait, le fait qu'on soit un espace qui se dise déjà féministe et qui dise voilà, je suis une femme musulmane et féministe, ça permet aussi à d'autres femmes musulmanes de se dire j'ai le droit de revendiquer ce mot à ma manière, et si je le revendique, je peux le revendiquer sans être dans ce truc. Parce que souvent, en fait, il y a plein de femmes dans notre entourage qui voulaient se dire féministes, mais qui, pour elles, en fait, être... les organisations... Elles ont tellement vu les organisations féministes anti-islam, anti-foulard, anti-tout ce que tu veux, qu'elles sont là, en fait, ça revient à me flinguer moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, complètement.
Et donc, du coup, le fait d'avoir un espace où tu peux être à la fois respectée en tant que personne musulmane et entre guillemets, ne pas te sentir trahir ta communauté, si je peux dire ça comme ça, mm-hmm. et d'un autre côté, quand même, développer, en fait, ta pensée autour du féminisme, c'était important.
D'accord. Wow. Mm-hmm. Une autre question pour revenir à toi, Inès. Mm-hmm. tu sais, moi, je suis persuadée que tout ce qu'on fait, quelque part, on le fait pour soi. Mm-hmm. On peut faire des choses excellentes, des choses très, très bonnes, mm-hmm. et puis le faire pour les autres, mais quelque part, si on décide de le faire, bien sûr, c'est pas, on n'est pas contraint, mais on décide de le faire, c'est que c'est bénéfique pour nous. Et donc, je serais très intéressée de savoir, au sein des foulards violets, qu'est-ce que toi, tu as appris en faisant partie de ce collectif, mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme, en fait ?
Alors, déjà, beaucoup de sororité. Mm-hmm. Beaucoup. Beaucoup de sororité, c'est que franchement, je pense que mes émotions militantes les plus fortes, je les ai eues quand je me suis sentie en communion avec mes sœurs, que ce soit Fête des Vagues mmh. ou que ce soit les foulards violets. Mmh. Avec Fête des Vagues, j'ai le souvenir de moments extrêmement forts. Autour d'une création théâtrale qu'on a fait en commun, mmh. Une pièce de théâtre qui s'appelle Tituba. Et ça, c'était, je pense, c'est un moment où j'ai regardé chacune de mes amies de Fête des Vagues, où je me suis dit, mais je vous aime. Et en fait, tu vois, cette bulle d'amour, mmh. C'est hyper fort. Et avec les foulards violets, j'ai souvent eu des moments où j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux, tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai essayé aussi de... Même là maintenant, j'ai un peu... Et en fait, j'ai essayé aussi un peu de comprendre un peu les ressorts de ce qui me touchait autant. Mmh. Parce que être en manif, c'est peut-être pas forcément le moment le plus touchant du monde. Mmh. Ou alors être sur des plateaux contre des mecs de l'UDC en train de débattre, c'est... Franchement, c'est pas le truc que t'as envie de faire tes vendredis soirs, tu vois ce que mm-hmm. je suis vachement mieux ici avec toi vendredi soir. Mais par contre, ça m'a apporté un truc, je me suis rendu compte. Mm-hmm. Ma maman, c'est une femme qui a eu un parcours de vie difficile. Mm-hmm. Elle a été orpheline très jeune. Mm-hmm. Elle est venue, elle a migré ici. Mm-hmm. Et en tant que femme qui porte le foulard, elle a vécu un peu tout un tas de choses. Elle a été femme de ménage, donc un métier très difficile. Mm-hmm. Puis elle a eu le cancer. Mm-hmm. Et puis en fait, elle a eu le cancer en ayant une fille handicapée, donc en ayant l'angoisse à chaque instant de sa vie qu'au moment où elle mourait, elle laissait derrière elle une fille handicapée. Mm-hmm. Et en fait, ma mère, qui était une femme très forte, et je pense que en vrai, c'était elle la première féministe que j'ai connue, parce qu'on était gamines, elle nous disait déjà... Tu dois faire des super études, te marier, c'est pas le truc le plus important de la vie. Mmh, mmh. Si tu te maries, il faut que tu aies ton propre compte bancaire, que tu aies de l'indépendance financière et tes économies. Elle avait un peu ce truc féministe, mais sans le savoir. Mmh. Et en fait, y a un côté quand même pour moi réparateur de me dire, voilà, ma mère, elle a souffert de plein de choses en étant une femme immigrée, musulmane, qui n'a pas eu la chance de faire des études, etc. Et le travail que je fais avec les foulards violets, mm-hmm. c'est une façon pour moi de me dire, c'est une forme de justice, de mm-hmm. me dire que peut-être que des femmes qui arrivent aujourd'hui ou demain en ayant, comment dire, le même background que ma mère, mm-hmm. Vont pas être seules dans ce truc. Qu'elles auront en fait des gens avec elles, une communauté de femmes musulmanes, qu'on parle ensemble, qu'on soit ensemble, en fait. Mmh. Et ça, c'est un aspect qui est très important pour moi de mon travail, de faire attention que les foulards violets ou tout autre travail militant que je fais ne soit pas inscrit dans une bulle classiste de personnes, on va dire, instruites, universitaires, qui ont mmh. la capacité de lire de la théorie politique. Dans mon parcours militant, il y a toujours un truc que j'ai trouvé important, c'est que, En fait, il faut que le militantisme soit inclusif pour toutes et tous aussi en termes de classe sociale. C'est-à-dire que quand je regarde le parcours de ma mère, évidemment, c'est une femme qui était très intelligente et qui était très combattante, etc. Mais si on l'avait mis dans une salle où les personnes parlent de théorie politique et puis de philosophie, en fait, ça l'aurait juste perdu. C'est important à la fois dans ce qu'on fait dans le collectif Fait des Vagues et puis dans le collectif des Foulards Violets, de penser à cette question de l'inclusion en termes de classe sociale. Il ne faut pas qu'on se retrouve toutes entre personnes qui avons fait un master en sociologie pour pouvoir avoir le droit de militer.
Tu sais, il y a une question qui me titille depuis le départ. Enfin, justement, quand tu as parlé d'être dans un débat avec un membre de l'UDC, ça a fait clic. C'est vrai que tu fais des débats avec des personnes qui peuvent tenir des propos problématiques dans le sens où peuvent tenir des propos qui vont, quelque part, te déshumaniser ou déshumaniser tes proches ou des gens que tu côtoies. Et comme on a parlé santé mentale avant, comment est-ce que toi, tu fais, Inès, pour te préserver contre ces propos qui sont déshumanisants, en fait?
Alors, quand je me suis retrouvée dans ces situations, j'essaie de me rappeler un truc, et si en fait les auditeurs, les auditrices, et surtout les auditrices du podcast peuvent l'appliquer, je vous jure que ça vous sort de plein de ce genre de situation. Quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, par exemple, qui va... Je donne un exemple, un mec de l'UDC qui va dire « Vous avez rien à faire ici, je sais pas quoi, vous n'êtes pas intégré, genre, j'en sais rien, tu vois, un truc un peu comme ça, n'importe. »
Ce qu'on entend.
Prenez une seconde à vous dire, je suis son pire cauchemar qui est en train de se réaliser. Et ça, je te jure, rien que le truc de dire, le cauchemar, c'est lui qui est en train de le vivre. Parce que la réalité de tous les jours, c'est que moi, je suis beaucoup plus proche de mon rêve que lui du sien. Ceux qui rêvent d'une Suisse ou d'une Europe ou d'un monde, on va dire, où les colonisés retournent chez eux, où les non-blancs sont chez eux, je sais pas quoi, où ils ne réclament pas l'égalité, où ils se battent pas pour leurs droits, eux, ils ont aucune chance de voir un monde tel qu'ils le rêvent. Alors que nous, la multiculturalité, on la vit déjà. L'égalité, chaque fois qu'on fait un pas, on sait qu'on s'approche. Eux, ils pensaient souvent au début qu'en maintenant des institutions extrêmement rigides liées à la migration, liées à l'impossibilité d'accéder à des études, au langage théorique, à la politique, ces barrières-là, on les fait éclater à chaque fois qu'on fait un truc. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment cette phrase-là. Souvent, quand je suis face à des personnes comme ça, je me dis, je suis son pire cauchemar et je suis flamboyante.
Waouh, Inès. C'est lent.
Et ça, et le mieux dans tout ça, c'est ensuite, c'est dire, non seulement je suis son pire cauchemar, mais je suis peut-être aussi, d'une certaine manière, le rêve d'une autre femme comme moi, ou de moi d'il y a quelques années. Qui me regarde en train de s'épanouir, tu vois. Alors oui, je suis en face de lui en train de recevoir un truc qui est pas cool, mais en même temps, je suis autour d'une table de débat, alors qu'il y a 10 ans, je me consumais toute seule de douleur, de l'idée de pas pouvoir répondre. Donc là, j'ai l'occasion de répondre.
C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, Inès, pour la suite?
Alors, il y a vraiment un truc qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est que, comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup de... L'écriture, c'est quelque chose qui prend une place importante dans ma vie, dans le sens où j'écris tous les jours, d'une façon ou d'une autre, ou alors je passe beaucoup de temps à penser, à rêver des mondes imaginaires. J'aimerais beaucoup, en fait, donner une forme, on va dire, concrète à cet amour que j'ai pour l'écriture.
Ouais.
Et ça n'a pas besoin de se vendre à des... Ça n'a pas besoin d'être un best-seller, mais rien que d'imaginer un livre. Et puis c'est aussi une forme de, pour moi, de, comment dire, de justice par rapport à ma mère qui ne savait pas lire mais qui allait dans des librairies me ramener des livres. Bah, j'aimerais bien qu'un jour j'ai un livre qui soit dans une librairie.
Waouh. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. Et au moment où tu publieras ton livre, je vais être la première à l'acheter et avoir ma dédicace.
Bah, tu seras sur la shortlist.
Merci. Merci beaucoup, Inès, pour cette belle discussion et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Un grand merci également à Beth et Patricia pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations et références en barre de description du podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ou moins, vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.